L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. À l'occasion des premières rencontres de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, l'Institut Montparnasse souhaite donner la parole à trois chercheurs ou praticiens autour de la question de la porosité de l'ESS. Chacun s'exprimera à travers des prismes sectoriels ou transversaux. Ces premières rencontres sont consacrées au secteur sanitaire et social. Dans ce premier épisode, nous donnons la parole à Hervé Defalvard, maître de conférence, Université Gustave Eiffel. Hervé Defalvard est responsable d'une chaire ESS. Ma première question, Hervé Defalvard, est la suivante. Pourquoi l'ESS se trouve divisé face au commun ?
Pour y répondre, d'abord, je donnerai une définition rapide de ce que sont les communs. Ce sont d'abord des communautés qui mettent en commun, qui produisent en commun des ressources pour qu'elles soient accessibles de manière durable à toute ou partie des membres de leur communauté. Et elles, pour cela, elles auto-gouvernent, elles auto-gèrent les règles de cet accès à ces ressources et aussi elles en gèrent les conflits. Donc, par rapport à cette définition qui s'inspire de celle qu'a donnée Elinor Ostrom, un prix Nobel d'économie en 2009, par rapport à cette définition, les communs s'avancent comme un mode d'allocation des ressources, comme disent les économistes, en fait un mode de régulation de l'économie. Cela veut dire régulation des relations entre la production et la consommation. Et c'est en cela que les communs vont avoir un effet de division par rapport à l'économie sociale et solidaire, qui est d'ailleurs beaucoup plus largement, de manière beaucoup plus couramment, abordé comme un mode d'organisation et non pas comme un mode de régulation. Donc, les communs vont introduire ce questionnement en termes de mode de régulation et en termes de mode de régulation, les organisations de l'ESS vont être divisées en trois grandes familles.
Alors, quelles sont ces trois grandes familles ?
Alors, les deux premières familles appartiennent à ce que l'on pourrait appeler la planète néolibérale, qui se caractérise justement par un mode de régulation depuis 30 ou 40 ans, qui s'impose dans toutes nos économies, en France et ailleurs, et qui, pour le dire vite, cette régulation néolibérale impose aux organisations de répondre à cette valeur pour l'actionnaire dont on parle tant, avec le conflit dans les raffineries, avec Total comme symbole de cette valeur pour l'actionnaire sans limite. Et donc, cette régulation néolibérale, deux familles de l'ESS vont être en quelque sorte satellisées par cette régulation néolibérale. La première de ces familles, c'est celle que j'appelle l'ESS financiarisée. C'est cette ESS dont les organisations vont se trouver inscrites, mêlées, dépendantes de cette maximisation de la valeur pour l'actionnaire, de ce retour pour investissement que demandent les actionnaires et tous leurs associés qui sont nombreux. Alors là, on va trouver, pour donner des exemples au moins des catégories, on va trouver les mutuelles avec leur phénomène de concentration qui appartiennent à cette ESS financiarisée, mais aussi en première ligne les banques coopératives, qui sont vraiment dans cette famille de l'ESS financiarisée, mais aussi on pourra trouver les coopératives agricoles ou de l'agroalimentaire qui, par leur mode de fonctionnement, leur inscription dans le champ de la société, vont se trouver dépendantes de cette régulation qui exige une valeur pour l'actionnaire. Et puis, la deuxième famille qui est de l'ESS, qui se trouve satellisée par cette régulation néolibérale, eh bien, c'est la famille de l'ESS qui va dépendre cette fois de l'État néolibéral, qui est la face pile de la pièce néolibérale. Une de ces faces, c'est les marchés financiarisés et l'autre face, c'est l'État néolibéral. L'État néolibéral, cette facette complémentaire, est sous la logique de la minimisation du coût de la solidarité. Et cette minimisation du coût de la solidarité, un certain nombre de familles de l'ESS la vivent dans le champ du secteur sanitaire et social, du secteur de la santé, du secteur sanitaire et social, du secteur social. Et là, on retrouve beaucoup des associations de l'économie sociale et solidaire auxquelles on demande de faire toujours plus avec toujours moins On l'a vu, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec le secteur des EHPAD qui est en première ligne de cette ESS, de cette ESS à minima, lorsque les associations interviennent dans ce champ des EHPAD. Donc là, on a ces deux premières familles qui se trouvent en quelque sorte satellisées par la régulation néolibérale. Et puis on a une ESS qui n'est pas satellisée, qui est indépendante, relativement indépendante, disons-le comme ça, de cette régulation néolibérale qui va, elle, appartenir à la régulation des communs, qui aujourd'hui est une régulation territoriale, c'est-à-dire cette manière de faire communauté pour assurer l'usage durable et l'accès durable à des ressources pour les membres de cette communauté, eh bien, elle se déploie sur les territoires, mais pas les territoires confinés au sol local. Les territoires de cette régulation des communs, c'est un territoire qui a à la fois une base locale et une base extra-locale qui peut, surtout avec les communs du numérique, les communs de la connaissance, être mondial. Ainsi, les Fab Labs sont des organisations qui ont à la fois correspondent à des ateliers où on peut dans ces ateliers avec un ensemble de connaissances produire une prothèse de la main et qui sont en lien avec une couche mondiale de connaissances qui est en accès libre à tous les Fab Labs du monde. Voilà donc comment on associe une production locale avec une solidarité à l'échelle du monde via cette couche mondiale de connaissances. Donc ceci, c'est une ESS que l'on trouve là, que j'appelle l'ESS en commun, qui est une troisième famille, qui appartient à cette régulation territoriale des communs et qui se caractérise par le fait d'être plus grande qu'elle-même, c'est-à-dire que sur les territoires, les organisations de l'ESS, les coopératives et les associations principalement, se trouvent associées avec des collectivités territoriales et aussi avec des entreprises classiques pour promouvoir une régulation sur ce territoire qui ne répond pas à l'objectif de la valeur pour l'actionnaire, mais qui répond à un objectif de bien vivre sur le territoire.
Alors, plus spécifiquement, quels seraient les impacts de ces évolutions sur le secteur sanitaire et social, si on devait faire un focus dans ce champ ?
Alors, dans ce champ, moi, je prendrai l'exemple d'une part des crèches et de l'autre part des EHPAD que nous avons étudiés. Là, l'évolution se traduit par ce que j'appelle la double peine, c'est-à-dire que depuis le début des années 2000, il y a une double évolution dans ce champ. La première évolution, c'est la mise en concurrence par l'État des organisations qui interviennent pour rendre le service de crèche ou pour rendre le service des EHPAD. Et donc, cette mise en concurrence se fait selon une logique du coût minimum, du prix le moins cher, comme on dit, qui est possible et qui est dont l'État est preneur. Et puis, ça, c'est la première évolution, donc cette mise en concurrence. Mais il y a une seconde évolution qui est l'entrée dans ces deux secteurs, aussi bien les crèches que pour les EHPAD, d'organisations du privé lucratif, c'est-à-dire des organisations qui répondent très directement à des actionnaires dont les actionnaires n'investissent pas dans ces secteurs pour le bien-être des enfants ou pour le bien-être des personnes âgées, mais pour avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, les finalités ne sont pas les mêmes. Et donc, les organisations de l'économie sociale et solidaire dans ces deux secteurs se trouvent mises en concurrence et mises en concurrence avec le privé lucratif. Et donc, elles s'alignent en quelque sorte. Elles ont une tendance à s'aligner sur ce fonctionnement financiarisé de l'économie auquel, si elles veulent survivre, elles sont en partie obligées de répondre. Donc, très concrètement, on l'a vu avec le groupe Orpea, eh bien oui, si on rationne les couches culottes des personnes âgées, si on met seulement une madeleine sur deux pour leur dessert, tout ça est bon pour le capital, même si pour les personnes âgées, c'est beaucoup moins satisfaisant, parce qu'on baisse le coût de production d'un service qui est celui de l'accompagnement des personnes âgées dans un EHPAD. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est justement cette ESS en commun dans ces champs du médico-social qui se traduit par le fait que dans certains territoires, ce que l'on voit, c'est des associations, qu'elles soient crèches ou qu'elles soient EHPAD, qui vont se relier à d'autres organisations du territoire. Ça peut être d'autres associations, ça peut, par exemple, pour les EHPAD, qui vont se relier à des écoles, qui vont se relier à des tiers-lieux pour, sur le territoire, construire à travers ces coopérations une manière de répondre globalement aux besoins qui s'y expriment, avec un autre référentiel que celui de la rentabilité ou du taux d'occupation des lits, mais avec un référentiel qui est finalement celui de la valeur de vie, j'allais dire, qui est produite sur un territoire.
Eh bien, merci Hervé de Falvar pour cet exemple, sans aucun doute inspirant. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre l'économie sociale et solidaire. Ce podcast est à écouter et à réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.